VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 4 décembre 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedunia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, Kinkie Mulumba, un ancien pro-Kabila, rejoint le camp Tshisekedi à quelques semaines de la présidentielle du 23 décembre.
La fermeture de l'ambassade américaine à Kinshasa était due à une menace d'un groupe affilié à l'organisation État islamique, a appris la VOA.
Le roi du Maroc, Mohamed VI, a rendu visite hier au président gabonais Ali Bongo Ondimba en convalescence à Rabat.
François Compaoré, frère de l'ex-président Blaise Compaoré, saura demain si la justice française accepte de l'extrader vers le Burkina Faso.
Ici à Washington, le président Donald Trump a rendu hommage hier soir à l'ancien président George Herbert Walker Bush, dont le cercueil est exposé pour un hommage public solennel au Capitole.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant. Le journal.
En RDC, à 19 jours des élections, Félix Tshisekedi, l'un des trois principaux candidats à la présidentielle, s'est félicité hier du ralliement d'un ancien soutien de Joseph Kabila, le président sortant. Le point avec Eddy Isango.
Félix Tshisekedi s'est affiché hier soir à sa permanence avec Trifon Kinkie Mulumba, un de 21 candidats qui semble faire la figuration derrière les trois têtes d'affiche. Ancien ministre de Mobutu, M. Kinkie Mulumba a été par la suite ancien rebelle puis ministre de Joseph Kabila. Il avait même lancé en 2015 l'association Kabila Désir, devenue parti politique qui encourageait les présidents Kabila à rester au pouvoir au-delà de son second et dernier mandat. Lorsque le président Kabila a annoncé qu'il ne se présentait pas, M. Kinkie Mulumba a lancé en août sa propre candidature. Par ailleurs, des proches du candidat Ramazani Shadari ont accusé l'autre candidat d'opposition, Martin Fayulu, de faire l'apologie de la violence contre les processus électoraux pour empêcher la tenue des élections. M. Fayulu s'en défend et répète qu'il veut des élections sans la machine à voter. Il est soutenu par Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga en exil, et Jean-Pierre Bemba, ex-vice-président. De son côté, l'opposant Félix Tshisekedi dit vouloir aller aux élections avec ou sans la machine à voter.
RDC toujours, un officiel américain a expliqué à la VOA qu'une menace d'un groupe affilié à l'organisation État islamique a été la cause de la fermeture de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pendant plus d'une semaine. L'officiel, qui a requis l'anonymat, parlait hier à la veille de la réouverture de la mission. Il n'a pas spécifié si ce groupe terroriste était composé de citoyens congolais ou d'éléments extérieurs. Pour sa part, le département d'État américain s'était contenté de dire, sans autre détail, que la fermeture de l'ambassade était due, je cite, à une menace terroriste.
Le roi du Maroc, Mohamed VI, a rendu visite hier au président gabonais Ali Bongo Ondimba, qui poursuit sa convalescence depuis le 29 novembre à l'hôpital militaire de Rabat. Des détails avec Nanit Talani.
Le souverain marocain s'est dit réjoui de l'état de santé du président Bongo qui évolue favorablement. Une photo de la rencontre a été publiée montrant les deux dirigeants assis dans des fauteuils autour d'une petite table sur laquelle sont posés deux verres et surmontés des drapeaux respectifs de leur pays. Vêtu d'un turban et d'une djellaba à rayures grises, le président Bongo y apparaît légèrement souriant et regardant le roi. La publication de cette photo doit être suivie d'une vidéo pour faire taire toutes les rumeurs et fausses informations sur l'état de santé du président Ali Bongo. Le président gabonais est arrivé jeudi 29 novembre à Rabat pour y poursuivre sa convalescence en milieu hospitalier après plus d'un mois passé dans un hôpital de Riyad pour une maladie qui reste officiellement inconnue.
Plus d'un an après son arrestation à Paris, François Compaoré saura demain si la justice française accepte de l'extrader vers le Burkina Faso. Ce frère du président déchu, Blaise Compaoré, est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo le 13 décembre 1998. Le point avec Bagassi Koura.
Le parquet général à Paris s'est dit favorable à l'extradition. Les avocats de Compaoré, Maître Pierre-Olivier Sur et Mathias Chisportich, dénoncent le caractère irrégulier et exclusivement politique de la procédure. Initialement prévue en juin, la décision a dû être reportée parce que la Cour réclamait au Burkina Faso des éléments matériels précis. Classé en 2003 après un non-lieu, le dossier Norbert Zongo a été rouvert après la chute de Blaise Compaoré fin octobre 2014. Depuis, les deux frères se sont exilés en Côte d'Ivoire, où ils ont obtenu la nationalité ivoirienne. François Compaoré, 64 ans, a été arrêté à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle de Paris en octobre 2017 après un mandat d'arrêt émis quelques mois plus tôt par Ouagadougou. Il est placé sous contrôle judiciaire en France. Le 13 décembre 1998, notre confrère Norbert Zongo et trois autres personnes ont été retrouvés morts calcinés dans leur véhicule à Sapui, dans le sud du Burkina Faso. À l'époque, il enquêtait sur le cas de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, torturé à mort.
Le représentant de la Côte d'Ivoire à l'ONU, Léon Kakou Adom, président en exercice du Conseil de sécurité pour décembre, a souhaité lundi que les discussions multilatérales prévues mercredi et jeudi à Genève sur le Sahara occidental aillent dans la substance. Monsieur Adom a également annoncé que le président ivoirien Alassane Ouattara sera jusqu'à jeudi à New York pour présider les premières réunions du Conseil de sécurité. Des débats sont prévus en milieu de semaine sur le maintien de la paix avec notamment le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki.
L'ONU a dénoncé hier les viols et agressions sexuelles commis récemment à l'encontre de plus de 150 femmes ou filles au Soudan du Sud par des hommes armés, dont plusieurs en uniforme, et elle a réclamé aux autorités de poursuivre les coupables en justice.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump et la première dame Melania Trump sont allés rendre hommage hier soir au Capitole à l'ancien président George Herbert Walker Bush, dont le cercueil, drapé des couleurs américaines, est exposé pour un hommage public solennel. Décédé vendredi à l'âge de 94 ans au Texas, l'ancien président républicain avait fait savoir qu'il n'avait pas voté en 2016 pour Donald Trump, qui a tenu cependant à lui rendre tous les honneurs, notamment en déployant le Boeing 747 présidentiel pour ramener sa dépouille dans la capitale lundi. Mercredi, journée de deuil national, Donald Trump se rendra aux obsèques dans la cathédrale nationale de Washington.
Saluant la trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis en marge du G20 à Buenos Aires, les marchés financiers de Hong Kong et de Hong Kong à Wall Street ont décollé lundi. Les présidents américains Donald Trump et chinois Xi Jinping ont redonné ce week-end l'espoir d'une accalmie dans leur bras de fer commercial. Washington prévoit en effet de suspendre l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane sur des importations chinoises pendant 90 jours, le temps de laisser une chance à la négociation.
Le médiateur de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, est arrivé hier dans la capitale, Sana'a, contrôlée par les rebelles houthis qui ont pu évacuer 50 de leurs combattants blessés dans le cadre de mesures de confiance avant des pourparlers de paix prévus en Suède. Et le Koweït a annoncé hier soir que la délégation des rebelles yéménites devant participer aux pourparlers quitterait Sana'a ce matin pour Stockholm.
Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce matin, à la demande du Royaume-Uni et de la France, une réunion à huis clos sur un essai de missiles balistiques mené en fin de semaine dernière par l'Iran. Selon des diplomates, ces deux pays, comme les États-Unis, jugent que ce tir a été effectué en violation de la résolution 2231 de l'ONU, interdisant à Téhéran des essais de missiles pouvant emporter une charge nucléaire, ce qui serait le cas de l'engin testé par l'Iran.
En France, les blocages orchestrés par des gilets jaunes en colère contre la politique sociale et fiscale du gouvernement se sont poursuivis pour la troisième semaine consécutive, avec maintenant une fronde dans les lycées et la colère des ambulanciers. Des détails avec Abdourahman Dia.
Les blocages de plusieurs dépôts pétroliers ont entraîné hier les premières pénuries d'essence, Certains blocages ont été levés après intervention des forces de l'ordre. En Bretagne, dans l'ouest du pays, de nombreuses stations-services sont en rupture de carburant, poussant les autorités locales à prendre des mesures de rationnement. Le trafic a été perturbé sur plusieurs axes routiers où les manifestants ont mis en place des barrages, entraînant parfois des bouchons sur plusieurs kilomètres. Les entreprises de transport routier ont estimé hier à 400 millions d'euros les pertes subies depuis le début des manifestations le 17 novembre. Par ailleurs, plus d'une centaine de lycées ont été paralysés par un mouvement de protestation contre les réformes dans l'éducation. Au moins une centaine d'ambulanciers ont bloqué hier l'accès de la place de la Concorde. Ils réclament la suspension d'une réforme du financement des transports sanitaires. Le Premier ministre Édouard Philippe a reçu hier les leaders de partis politiques et doit rencontrer aujourd'hui des représentants des Gilets jaunes. Le président Emmanuel Macron n'a pas pris la parole publiquement depuis son retour d'Argentine.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanik Talani.
La Côte d'Ivoire va bénéficier de l'Agence française de développement environ 52,4 milliards de francs CFA pour améliorer l'accès à l'électricité en zone rurale dès 2019, révèle l'agence Ecofin. Cet accord va aussi favoriser les lignes de crédit bancaire pour le financement de projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, ainsi que de l'assistance technique pour accompagner le développement des énergies renouvelables. De plus, selon Ecofin, cette coopération va faciliter le déploiement des infrastructures de pilotage et de gestion intelligente du réseau, ainsi que réaliser la première centrale électrique solaire flottante d'Afrique. Le Congo-Kinshasa vient de classer par décret le cobalt dont elle est le premier producteur mondial au rang des substances minérales stratégiques ainsi que le germanium et la colombo-tantalite. Dans son nouveau code minier, la RDC prévoit de surtaxer les minéraux stratégiques. Ce nouveau document prévoit aussi la fin de la stabilité des contrats sur 10 ans. Terminons avec les prix du baril de brut qui sont montés en flèche après que la Russie et l'Arabie Saoudite ont annoncé, en marge du sommet du G20, leur intention de renouveler leur accord sur une baisse de production. Le cours de l'indice de Brent a ainsi grimpé de 2,60$ à 6,06$ américains.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Luka Modric, Ballon d'Or, France, football 2018.
Et oui, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et finaliste du Mondial avec la Croatie, Luka Modric a devancé Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. La quatrième place est revenue à Kylian Mbappé, 19 ans. Le croate de 33 ans avait déjà été élu meilleur joueur du Mondial en Russie et a aussi remporté les titres de meilleur joueur de la saison écoulée décernés par l'UEFA puis par la FIFA. Son sacre met un terme à l'hégémonie du duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, vainqueur des 10 derniers ballons d'or, 5 chacun. Remis pour la première fois, le ballon d'or féminin a été décerné à l'attaquante de la Norvège, Ada Hegerberg, victorieuse de la Ligue des Champions avec Lyon. Le titre de meilleur joueur de moins de 21 ans, appelé Trophée Raymond Kopa, est revenu à Kylian Mbappé.
Sadio Mané a été classé 22e.
23e du ballon d'or en 2017, l'attaquant sénégalais a gagné une place cette année, à égalité avec l'Uruguayen Edinson Cavani et le Brésilien Marcelo. L'ailier de Liverpool est 22e au classement du trophée dévoilé hier. Auteur de 21 buts en 53 matchs en 2018, Sadio Mané a atteint la finale de la Ligue des Champions avec les Reds, mais son but face au Real Madrid n'aura pas suffi, défaite 1-3. Son compère de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah, a été classé 5e.
La CAF a disqualifié la Sierra Leone des éliminatoires de la CAN 2019.
La Sierra Leone est disqualifiée des éliminatoires et les résultats de ces matchs sont annulés, a déclaré la CAF dans un communiqué. Cette disqualification entraîne du même coup la qualification du Kenya et du Ghana, qui occupent les deux premières places du groupe F. La CAF ne précise pas la raison pour laquelle la disqualification a été décidée, mais la Sierra Leone est par ailleurs suspendue par la FIFA pour ingérence gouvernementale. L'instance mondiale reproche en effet aux autorités l'éviction de la présidente de la Fédération Sierra Leonaise de football, Isha Johansen, et de son secrétaire général, Chris Camara, par le ministre des Sports pour des soupçons de corruption, matchs truqués et direction défaillante.
On aura le choc nord-africain Espérance Tunis Raja, Casablanca, en Supercoupe d'Afrique.
Oui, après le sacre de l'Espérance Tunis le mois dernier en Ligue des Champions, le Raja Casablanca a remporté dimanche la Coupe de la CAF. Comme chaque année, les deux lauréats vont s'affronter à l'occasion de la Supercoupe. Toutefois, la date de la rencontre n'est pas encore précisée. Initialement prévue le 29 décembre, le comité exécutif de la CAF devait étudier vendredi son éventuelle reprogrammation au 4 janvier, mais l'instance n'a rien précisé pour l'heure à ce sujet. Basket, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Oklahoma City et Détroit 110 à 83, Golden State et Atlanta 128 à 111, Cleveland et Brooklyn 110 à 107, Denver et Toronto 106 à 103, Minnesota et Houston 103 à 91.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, la principale coalition de l'opposition appelle à une journée Togo mort. Aujourd'hui, jour du démarrage de la campagne pour les législatives du 20 décembre, cette coalition de 14 partis entend ainsi demander l'arrêt du processus électoral et appelle au boycott du scrutin. Samedi, des manifestations ont eu lieu pour la troisième fois en 15 jours à Lomé et dans d'autres villes. L'opposition promet de tout faire pour empêcher la tenue de ce scrutin. Idriss Fall a recueilli la réaction de Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique et porte-parole du gouvernement togolais.
D'abord, je ne sais pas comment on peut dire qu'un pays peut être mort. C'est vrai que de temps à autre, on peut imaginer une ville morte pendant quelques heures, mais imaginez que les paysans, les commerçants, ceux qui doivent aller au travail dans la fonction publique, dans les administrations privées, dans les banques, les assurances, ceux qui se battent pour avoir leur pain quotidien, imaginez qu'ils cesseraient d'aller à leurs activités, qu'ils n'iraient pas à leur lieu de travail, qu'il n'y aurait pas de commerce juste pour faire plaisir à un groupe de partis politiques, je crois que c'est un peu de l'amusement. Et en réalité, les Togolais se désintéressent totalement de ce que cette coalition a commencé à faire. Ce ne sera certainement pas suivi par l'immense majorité des Togolais.
Les opposants à cette coalition demandent peut-être une reprise de l'ensemble du processus électoral, reporter les élections du 20 décembre. Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Non, ce n'est pas une demande raisonnable. Parce qu'il n'y a pas de justification, il n'y a pas de raison qui pourrait conduire à la reprise intégrale du processus électoral. La campagne électorale démarre et le 20 décembre, il y aura le scrutin des législatives. Tout a été fait du côté du gouvernement et des autorités, à la fois pour assurer la participation de tous les acteurs à la commission électorale. Tout a été fait pour réaliser un recensement électoral et les Togolais se sont d'ailleurs massivement mobilisés. On a actuellement plus de 3 200 000 électeurs. Ce n'est pas uniquement des partisans ou des sympathisants du parti au pouvoir. Ça représente une diversité, une pluralité de sensibilités politiques. Tout a été fait pour obtenir l'appui technique et l'accompagnement de la CEDEAO. Et cet accompagnement existe aujourd'hui avec des observateurs électoraux qui ont supervisé le recensement électoral, avec des experts électoraux qui continuent à appuyer la CENI dans ses activités et avec des experts indépendants de la CEDEAO qui vont s'occuper de l'audit du fichier électoral. Donc toutes les conditions prévues par la feuille de route de la CEDEAO sont pleinement réunies pour aller au scrutin le 20 décembre 2018.
Mais l'opposition promet de tout faire pour empêcher la tenue de ce scrutin.
L'État prendra ses responsabilités. L'ordre public sera respecté. Et nous respectons pleinement les droits et les libertés, notamment la possibilité pour les partis politiques d'organiser des rassemblements et des manifestations. Mais en même temps, à partir du démarrage de la campagne électorale, il n'est pas possible d'avoir ce genre d'activité. tout ce qui peut entraîner le blocage, tout ce qui peut empêcher les citoyens d'aller et venir, tout ce qui peut conduire à des violences, à des affrontements et à la confrontation entre citoyens, tout ce qui peut conduire à des attaques, des agressions contre les forces de l'ordre, tout cela sera évité et des mesures les plus robustes ont été prises et les forces de l'ordre travailleront concomitamment avec la justice pour que, en cas de besoin, les gens puissent être déférés à la justice.
C'était Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique et porte-parole du gouvernement togolais.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour sur le mandat d'arrêt international lancé par le procureur général de la République du Burundi contre Pierre Buyoya et 16 autres personnalités militaires ou proches de l'ancien président burundais. L'opposition, tout comme M. Buyoya, parle de manipulation politicienne. Reportage de notre correspondant sur place, Christophe Kurunziza.
La nouvelle largement commentée à Bujumbura concerne ces mandats d'arrêt lancés contre les dignitaires des anciens régimes burundais avant l'éclosion de la démocratie en 1993. Pierre Buyoya, l'ancien président aujourd'hui envoyé spécial de l'Union africaine au Mali, est en tête de liste des personnes recherchées. Si le pouvoir affirme vouloir mettre fin à l'impunité au Burundi, l'opposition parle, elle, de chasse à l'homme basée sur l'ethnie. Liberate Nzofavarushe, 45 ans, et Tutsi, on a tué certains membres de sa famille juste après la mort.
C'est bien que la justice travaille, mais après la mort du président Ndadaye, il y a des innocents qui ont été tués dans les collines par la milice. Je debout, c'était des jeunes démocratiques, il faut debout. Si la justice devait se faire, il faut qu'il se fasse pour tout le monde, pour tous les Burundais. Sinon, c'est la justice des puissants qui ne ramène pas la paix. Pour tous les Burundais.
Syriac Nirinzomvamunda, juriste, insiste lui aussi pour une justice pour tous, comme le réclame le clergé burundais.
Vraiment, ceux qui ont assassiné Ndadaye, il faut quand même qu'ils soient punis. Si on punit ceux qui ont assassiné Ndadaye, ce n'est pas seulement ceux qui ont commis les crimes. Il faut aussi que tous les côtés donc, soient jugés. Si on juge ceux qui ont assassiné Ndadaye, ce ne serait pas une justice équitable. Il y a vraiment ceux qui ont commis les massacres, notamment à Bugendana. Je crois quand même que tous ceux qui ont tué, ils ont commis des crimes. Il faut quand même qu'ils soient jugés.
L'ancien journaliste Jean de Dieu Saint-Guillaume va aujourd'hui analyse de la politique burundaise, ne comprend toujours pas le pourquoi de cette mesure.
Comme beaucoup d'autres Burundais, je ne comprends pas tout de suite ce que visent ces mandats d'arrêt. Et ce qui revient à dire que finalement, il y a une main d'un politique. On veut nous faire oublier, comme si cela était possible, nous faire oublier des dossiers qui sont d'actualité, des dossiers qui devraient être mis en avant, que ce soit à Arusha ou ailleurs, sur la table des négociations pour être débattus, mais que la justice le fasse en toute indépendance. Est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce que c'est la décision qui a été prise par la justice burundaise que nous connaissons? Non, et ça peut être dangereux. L'accord d'Arusha avait octroyé une amnistie provisoire pour tous ceux qui sont impliqués dans des situations qui attendaient le pays. Alors maintenant qu'on a enterré l'accord d'Arusha, on vient de trouver l'occasion pour arrêter, pour punir, pour se venger.
Pour l'ancien président Pierre Buyoya, la justice risque une fois de plus d'être instrumentalisée au risque de ramener le pays dans des haines ethniques. L'Union africaine a appelé le gouvernement burundais à arrêter toute mesure qui vise à nuire à la recherche d'un consensus sur la crise actuelle. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Tchad, l'ex-chef rebelle et ancien préfet Abdelkader Oumar alias Baba Ladé a comparu hier à N'Djamena. Accusé d'association de malfaiteurs, entre autres, il est détenu depuis janvier 2015 et doit à nouveau comparaître le 5 décembre pour que la cour criminelle puisse statuer sur son dossier. L'initiative Action citoyenne pour l'application intégrale de l'amnistie au Tchad estime que Baba Ladé et 71 autres détenus doivent bénéficier de l'amnistie du 31 mai 2018 en faveur des opposants. Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena le juriste Jean Bosco Manga, membre de l'initiative.
Nous sommes surpris surpris que le cas Babalade continue à attirer l'attention des autorités judiciaires. Pourtant, nous, on se dit que tous les groupes rebelles ont été considérés d'une manière ou d'une autre comme des associations de malfaiteurs. Parce qu'au moment où même le MPS était encore en rébellion, le régime Lefebvre considérait la rébellion du MPS comme étant des narcotrafiquants, des personnes à la solde de l'impérialisme, etc. Donc, c'est la même chose. Quand on se trouve dans cette situation de rébellion, on est toujours dans l'illégalité, on constitue toujours ce qu'on peut appeler l'association de malfaiteurs. Donc, nous, on s'est dit que si on doit considérer un chef rebelle et son groupe comme une association de malfaiteurs, c'est que le régime MPS est aussi une ancienne association de malfaiteurs.
Alors, vous avez remis une liste de plus de 70 noms de personnes devant bénéficier de l'amnistie. Quelle a été la réaction des autorités à ce sujet?
Nous avons saisi officiellement le ministre de la Justice. Et je crois que la fois dernière, eux-mêmes étaient surpris de ce nombre de personnes qui sont encore dans les prisons du Tchad, parce qu'eux, ils pensaient à une dizaine de personnes, mais nous avons eu à déceler qu'il existe plusieurs personnes qui n'ont jamais comparu devant une juridiction. Et ces personnes-là, on n'a aucun contrôle sur eux. Et ils croupissent dans des prisons pour certains depuis 7 ans, depuis 8 ans. Et avec le travail qu'on a eu à faire, nous avons transmis aux autorités avec une copie à la présidence de la République, au président de l'Assemblée nationale, pour que les autorités puissent appliquer l'amnistie pour tous ceux qu'on reproche l'infraction d'atteinte à l'intégrité de l'État. Donc, ils ont dit qu'ils sont en train de mettre sur pied une commission technique qui va étudier tous ces cas-là et voir comment appliquer cela pour tout le monde, parce que nous avons déjà des personnes qui ont commencé à bénéficier de cette amnistie. Je vous rappelle que depuis notre action, il y a au moins 5 personnes qui sont actuellement libres, parce que l'amnistie a été évoquée comme raison pour les libérer.
Jean Bosco Manga, membre de l'initiative Action citoyenne pour l'application intégrale de l'amnistie au Tchad.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
À l'instar de nombreux autres Américains, le président Donald Trump est allé rendre un hommage donc lundi soir au 41e président des États-Unis, George Herbert Walker Bush, dont le cercueil drapé des couleurs américaines est exposé pour un hommage public solennel au Capitole ici à Washington. Monsieur Bush est décédé vendredi dans le Texas à l'âge de 94 ans. Des funérailles sont prévues demain mercredi, journée de deuil national, à la cathédrale nationale de Washington. Pour un témoignage sur l'ancien président Bush, Jacques Aristide a reçu hier dans nos studios un de ses ex-proches collaborateurs, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
D'abord, il était un vrai diplomate. Normalement, les présidents des États-Unis n'ont pas d'expérience dans la diplomatie, mais il était ambassadeur en Chine, il était ambassadeur auprès des Nations Unies, il était directeur de la CIA. Donc, sur le plan des affaires étrangères, il avait une expérience formidable. Et aussi, il prenait l'Afrique au sérieux. Il aimait traiter avec les Africains.
Là-dessus. Alors, il dirigea la coalition victorieuse contre l'Irak de Saddam Hussein, mais échoua peu après à se faire réélire, chose rare pour un président sortant, n'est-ce pas? Mais a-t-il laissé des souvenirs indélébiles aux Américains malgré son unique mandat comme président, d'après vous?
Oui, il a fait beaucoup de choses dans le domaine de la santé. Il a augmenté l'assurance santé pour les pauvres. Et aussi, il a augmenté les exports agricoles. Comme il était ambassadeur en Chine, il a augmenté les ventes de soja, de blé, de maïs vers la Chine. Et donc, les fermiers du centre des États-Unis étaient très contents de lui.
Qu'a-t-il légué à l'Afrique?
Pendant ses 4 années au pouvoir, il a fait beaucoup pour trouver des solutions aux conflits intérieurs en Afrique. Par exemple, l'Éthiopie, l'Angola, Mozambique. C'est lui qui a initié les processus de négociation dans les 3 pays. Et avant son départ, Les guerres étaient terminées dans ces trois pays. C'était une grande victoire pour lui.
Des choses dans lesquelles vous étiez impliqué, bien évidemment. Alors, le président Trump a décidé d'envoyer son avion pour le cercueil de Bush père, qui avait pourtant fait savoir qu'il n'avait pas voté pour Donald Trump en 2016. Malgré cela, pensez-vous que l'actuel occupant de la Maison Blanche est en train de lui rendre tous les honneurs?
Bien sûr que oui. D'abord, il a fait une déclaration qui était très chaleureuse envers président Bush. Et il envoie son avion personnel et il sera à l'église pour le funérail. Non, je crois qu'il est très correct dans son attitude.
En même temps, vous savez que les médias américains sont en train de comparer les deux présidents. Pour eux, c'est le jour et la nuit. Qu'en pensez-vous? Faut-il vraiment comparer?
Oh, c'est difficile, mais moi, je préfère attendre après le premier mandat, dans 2 ans. Après, je vais comparer Trump, pas seulement avec Bush, mais avec tous les autres.
Pour terminer, un petit souvenir personnel que vous retenez de Bush père?
Oui, il était très enthousiaste pour l'Afrique. Et un jour, en parlant de nous attendions un visiteur, il dit, vous savez qui est mon meilleur ami en Afrique? J'ai dit, qui, monsieur le président? Il dit, président Abdou Diouf du Sénégal.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.